Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
Eh bien bonjour à tous, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie pour une émission spéciale, le débat,
le droit de réponse
écologique avec les journalistes de la JE, donc Valérie Laramé que tout le monde connaît maintenant.
Clara Delpas.
Voilà, et Laurence Madoui.
Exactement, merci de m'avoir présenté.
Parfait. Alors donc, ça va être une émission de débat pour pouvoir confronter un peu nos idées, parce qu'au final, comme le journaliste, c'est un peu un métier de marathonien solitaire, et là, voilà, on va pouvoir échanger nos idées et voir, affûter un peu nos points de vue. Eh bien, ouvrons ce premier droit de réponse écologique, et chacun rendra hommage à Michel Pollack.
Si on veut. Mais de quoi allons-nous parler, François ?
Ah oui, c'est
si
vrai.
Si je peux me permettre.
Eh bien, tu as tout à fait raison. Le sujet du jour, c'est « Faut-il laisser l'agenda écologique aux politiques ?»
Et pourquoi ce sujet, précisément ? Je crois qu'il y a un scoop.
Ah, il y a deux scoops.
Un scoop
un peu éculé, puisqu'on est toujours en vacances de ministre.
Le fameux sondage.
Et il y a aussi un sondage du Global Compact. Global Compact, qui a interrogé 13 000 Européens sur la priorité ou pas accordée aux questions écologiques. Voulaient-ils voir plus de politique écologique ou pas ? Et la réponse, c'est quand même 80% pour plus de priorité à l'écologie dans les politiques de nos gouvernements et de l'Union européenne. Ce sondage qui vient d'être publié rend compte de l'intérêt des citoyens européens sur ces questions environnementales et écologiques.
Développement durable, officiellement.
Voilà, c'est ça, qu'on appelle là, d'une manière un peu euphémiser le développement durable, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais bon, c'est pas la question. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sondage quand même dans 13 pays de l'Union. Donc pour une fois, on n'a pas que pensent les Français tout seuls dans le monde. Donc là, au moins, on a une vision à moitié européenne, c'est déjà pas mal. Et que pense-t-il de l'engagement, de comment est traité et pris en charge les questions développement durable, mais moi que j'appelle écologique.
Par les entreprises.
Oui, alors c'est beaucoup les entreprises, mais généralement aussi entre les gouvernements, entre l'Europe, et puis les citoyens, les associations, les ONG.
Alors je crois qu'il faut quand même préciser qu'il y a le pacte mondial, donc le Global Compact, il existe dans chaque pays.
Oui.
Et tu en as, par exemple, pour la France, tu as une sorte d'entité maintenant qui existe et qui concerne 2200 entreprises en France.
Alors normalement, aux 20h ce soir, on devrait, s'ils ont bien réussi leur coup, en parler un chouïa. Et ça dit quoi quand même ? Ça dit que quand même 80% des Européens considèrent que le développement durable devrait être une action prioritaire pour l'Union européenne et les gouvernements nationaux. Donc, alors dans ces 80%, il y en a 20% qui considèrent que ce serait la première priorité et puis 50% qui considèrent que ce serait une priorité, mais avec d'autres.
Et qu'est-ce qu'on en pense autour de la table ?
Eh ben, voilà, peut-être que ça... Non, en tout cas, c'est pour montrer quand même qu'il y a une forme de décalage. D'un côté, on est une espèce de carence du pouvoir. Et puis d'un autre côté, il y a les citoyens qui, d'une manière ou d'une autre, attendent quelque chose, attendent que les gouvernements et l'Union européenne agissent. Bon, c'était pour poser un petit peu le débat. On va peut-être faire un petit tour de table parce que faut que je respire.
Non, il faut voir jusqu'à quel point ces entreprises aussi vont s'aligner sur les 17 ODD et s'ils vont essayer de respecter l'échéance de 2030.
Alors, c'est ça aussi c'est la sous-question. Effectivement, l'enseignement de ce sondage, c'est qu'effectivement, ça interroge beaucoup. Pensez-vous que les entreprises sont crédibles sur le sujet ?
Ouais.
Voilà. Et donc, effectivement, le résultat, c'est
30... Il dit rien.
Comment ?
Il faut demander à Valérie qu'est-ce qu'il en pense, parce qu'il fait comme ça avec la
voilà,
tête.
Voilà, eh bien, je lui passe le micro.
ça va en surprendre certains, mais je suis légitimiste. Et je crois que pour répondre à la question initiale posée par François Delaunay, je crois que le politique a toute sa place dans l'élaboration de politiques environnementales, notamment au plan européen. On a vu quand même une association de parlementaires, de gouvernements, le Conseil, et la Commission européenne, les technocrates, qui ont forgé ces dernières années l'une des politiques environnementales et climatiques et de défense de la biodiversité la plus audacieuse qui existe en ce moment sur la planète. Alors on peut juger que c'est insuffisant, mais si l'on regarde au-delà des frontières de l'Union européenne, il n'y a aucun équivalent. Il s'agit quand même, accrochez-vous, de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre, de transformer l'économie et l'agriculture pour faire en sorte que non seulement on arrête d'artificialiser les sols, de déforester chez nous, mais aussi chez les autres, que l'on réduise les émissions des usines, des poulaillers géants, des grandes unités d'élevage de bovins, etc., industriels, etc., etc. Ça s'appelle le pacte vert européen. Alors, bien sûr, ces derniers mois, pardonnez-moi, on a vu ce pacte vert un tout petit peu écorné, mais sur des textes mineurs, sur des textes traitant du rapportage de statistiques pour les entreprises. Bon, c'est important pour les entreprises et effectivement, ça peut être relié à ce que disait Ben sur ces multinationales qui sont pseudo-vertueuses parce qu'elles signent un pacte et qu'elles signent un chèque d'ONU. Mais ces entreprises continueront de publier des statistiques et seront peut-être un tout petit peu moins précises. De toute façon, on sait tous autour de cette table que les statistiques données par les entreprises sont de gros vilains mensonges. Il y a des cabinets d'audit qui sont payés pour les truquer. Mais quand même, le pacte européen existe, continue d'être appliqué et produit des effets dans les politiques européennes et dans les politiques locales. Puisqu'on voit bien aujourd'hui, et pour en revenir au sondage, que là où la politique environnementale se déploie avec la plus grande des rapidités, même si c'est difficile, c'est au niveau des collectivités territoriales, qui sont en première ligne, aussi bien pour l'adaptation au changement climatique que pour l'équipement en énergie renouvelable,
ça, c'est en France,
etc. Donc, je veux dire que on a vu se forger ces dernières années ce pacte européen et ça donne des résultats localement. Et je crois que le biais aujourd'hui, il est qu'il y a un certain nombre de politiques français en particulier, mais pas seulement, on voit ça en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays de l'Union, qui se sont emparés de ce pacte vert pour surfer là-dessus avec la vague trumpiste et dire que l'écologie, c'était pas bien, mais ce n'est pas du tout l'avis des Européens.
Eh bien, qui veut rebondir ?
Un petit peu dans le même ordre d'idée, puisque tu as attaqué sur les sondages, François, il y en a un qui m'a un petit peu interpellée, c'était il y a deux jours, ça m'a presque donné
Allez,
du
vas-y.
Baume au cœur.
Vas-y, dis-nous, avant qu'on puisse lancer la musique.
On veut savoir.
Une étude d'opinion qui a été menée par l'association Parlons Climat auprès des électeurs des Républicains et du RN.
Ah ouais.
De façon générale, on sait que...
Dans cette boîte noire, on dit quoi ?
On sait que les citoyens sont toujours plus en pointe sur les questions d'environnement que leurs dirigeants. Mais c'est valable également à droite et à l'extrême droite. Il y avait toute une batterie de questions. Les réponses m'ont étonnée. Par exemple, quand il s'agit de refuser les accords commerciaux contraires aux engagements climatiques, vous avez quasiment 9 républicains sur 10 et 8,5 du RN qui sont tout à fait d'accord pour mettre un veto. Baisser de 50% l'usage des pesticides d'ici 2030, c'est 85% chez les Républicains et à peu près 80% chez les RN. C'est quand même des Républicains qui est venue la proposition de loi Duplon. Doubler le parc éolien et solaire d'ici 2030, c'est 3/4 des Républicains et à peu près 2/3 des RN qui sont d'accord. Le RN, c'est bien ceux qui veulent faire un moratoire sur les énergies renouvelables. Bref, même dans les familles politiques les plus hostiles à la transition, finalement, vous avez des majorités qui sont d'accord. Et comme dans une démocratie représentative, c'est difficile d'aller éternellement à l'encontre de l'opinion publique et plus encore de tourner le dos à ses électeurs. À mon avis, les dirigeants du moment vont devoir tôt ou tard se réaligner.
Parce que là, ce que tu nous dis, c'est qu'ils font le grand écart. Hein.
Ça, c'est le politique qui reprend le dessus.
C'est le politique qui ne peut pas ignorer à la fois sa base. Et puisque quand on avait un petit peu préparé cette émission, François, tu me demandais, est-ce que c'est aux politiques de décider de l'agenda politique ou aux scientifiques ? Oui, là, je rejoindrais Valérie, je suis légitimiste aussi, sauf à faire une révolution, à instaurer une dictature verte. Je ne crois pas qu'on soit trop pour autour de cette table. On va en rester aux politiques qui a le lead.
Eh bien, on va faire une petite pause musicale et on repartira sur ces questions tout à l'heure.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien bonjour, vous êtes dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Donc on avait engagé on a engagé un débat sur quelle place, quel rôle des politiques dans l'agenda écologique. Alors effectivement, on vient de nous rappeler que chaque chose a sa place, les politiques ont un rôle, etc. Bon, dans le débat, j'ai cru comprendre que on disait il y a des politiques au niveau national, il y a des politiques au niveau local, c'est pas toujours la même chose. Mais moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il ne devrait pas... Parce qu'on a quand même une vacance du politique national assez récurrent maintenant, vu le fonctionnement de notre 5e République. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une espèce de sanctuarisation de certaines actions qui, de toute manière, ont été lancées? On parlait du pacte vert, on parlait des efforts à faire sur un certain nombre d'objectifs, et quelque part, rien ne devrait permettre que ça s'arrête et que les...
Comme les transports publics durant la grève.
Voilà, 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 une espèce de service minimum politique.
Bonne idée.
Bon, mais allez, Clara, dis-nous.
C'est un peu confus. Moi, je trouve ça un peu farfelu, parce que tu vas mettre de la politique écologique sur un terrain où on a quand même... si tu parles d'agriculture, tu vas voir la FNSEA qui va balancer du fumier sur toutes les préfectures. Enfin, l'écologie n'est pas aimée aujourd'hui, pas par les citoyens. Les citoyens, ils ont envie d'avoir un...
Très largement, comme 80%, sondage. Y compris à l'extrême droite, on vient de l'apprendre
bien sûr.
Par Laurence.
Après, bien sûr, tout le monde a envie de bien manger, d'avoir un air pur et tout ça, mais qui fait la loi ? Les industriels n'ont pas du tout, les industriels et ceux qui ont des intérêts économiques qui sont menacés par l'écologie, comme les agriculteurs, comme bien d'autres industriels.
Il y en a effectivement qui doivent se remettre en cause. Il est clair que les décideurs ne sont pas toujours les payeurs.
Bien sûr.
Je pense dans bien des cas, il faut aussi donner la parole à ceux qui, entre guillemets, contribuent et doivent changer, c'est pas toujours évident. Mais ceci étant, on l'a vu, nous qui avons 30 ans d'environnement dans les pattes, on a vu aussi quand même se réformer certains secteurs industriels ces 30 dernières années. Il y a eu des gros progrès sur... notamment, je pense au traitement de surface. Avant, il y avait des pollutions monstrueuses, des eaux. Il y a eu quand même d'énormes progrès là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce backlash qui est perpétuel, on a l'impression que...
qu'il ne se passe rien.
Oui,
alors
c'est ça.
Alors qu'en termes d'actualité, on a par exemple bientôt le traité sur la haute mer. Qui, lui, est quelque chose quand même qui va représenter un plus. Parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont décidé de le ratifier.
Alors effectivement, c'est l'info de la semaine. Peut-être que tu peux redévelopper un petit peu rapidement.
Non, pas du tout. Je voulais juste...
Ah, tu voulais juste savonner la planche.
Juste vous montrer qu'il y avait aussi, de temps en temps, des politiques qui étaient capables... de faire avancer le Schmilblick.
Alors, ça c'est vrai qu'on avait fait une émission sur cette question à l'UNOC.
Nations Unies, la conférence des Nations Unies sur l'océan.
Voilà, à Nice. Donc ça, c'était avant les vacances, c'était à la fin de notre saison 1.
Juin.
En juin, oui. Et donc, on a prévu de faire une émission sur cette thématique-là, mais en avant-première... C'est pour ceux qui le savent pas ou ont pas lu, on a passé le cap des 60 pays qui ont ratifié la chose.
Voilà.
J'ai cru comprendre que c'était le Maroc qui a apporté sa 60e voix, ou signature plutôt que voix, très récemment. Et donc le traité pourrait être mis en vigueur à partir de fin janvier, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais.
Bon. Et donc ce traité va enfin pouvoir mettre en place une espèce de police ou de règlement de... les océans.
À la fois pour les espaces marins protégés et à la fois aussi pour la préservation des fonds marins. Hein, c'est un peu les deux. Hein. Valérie, je parle sous ton contrôle, bien sûr. Bon, il n'y a pas d'érection. Il n'y a pas de...
Bon, alors, donc pour vous, c'est quand même aux politiques de tenir l'agenda. On est bien d'accord. Mais est-ce que nous...
Et à l'inverse...
qui d'autre peut tenir l'agenda que les politiques qui légifèrent?
Et à l'inverse, quand le pacte vert...
Qui légifère, c'est une chose, mais quelque part, on a l'impression que là, depuis 3 semaines, il n'y a plus rien qui se fait, quoi.
Enfin, s'il n'y avait que depuis 3 semaines.
Mais donc, moi, je vous dis, hein, je suis effrayé. Ma chronique, les nouvelles de Rocklore, elle est morte. C'est pas normal, quand même, vous vous rendez compte. Il n'y a plus rien sur l'agenda de Madame la Ministre. c'est ahurissant, quoi.
Enfin, il peut se passer quelque chose politiquement indépendamment des activités d'un ministre ou d'une ministre ou d'un ministère. C'est ça peut-être la suite du débat.
Alors justement,
que je voudrais porter à votre attention.
Mais alors, si c'est pas les ministres.
Bah, il se passe quelque chose dans les conseils régionaux, j'imagine qu'ils ne sont pas en vacances, non. Dans les municipalités non plus. C'est dommage qu'ils ne prennent pas la parole, qu'ils ne profitent pas du temps que leur donne la vacance ministérielle pour expliquer ce qu'ils font.
Alors, il se passe quand même des choses. La DGEC vient d'attribuer aujourd'hui le plus grand parc éolien, la concession du plus grand parc éolien marin français, un duopole constitué de Total Energy et de RWE, qui est un grand électricien allemand. Ils vont construire 1500 MW éoliens à 40 km au large du Cotentin. C'est une grande nouvelle pour les énergies renouvelables.
Voilà de l'actu.
C'est de l'actu. Et
c'est ça, passé aux 20h.
Bah, je ne sais pas, on ne peut pas le regarder. Là, tel qu'on est. Parce que je voulais rebondir sur ce que disait Clara. Je trouve que c'est audacieux de parler des agriculteurs. Il y a différentes catégories d'agriculteurs. L'essentiel, ce sont des agriculteurs qui sont affiliés à des coopératives, qui aujourd'hui sont de véritables groupes industriels, et les deux premiers d'entre eux envisagent d'ailleurs de fusionner, ce qui donnera naissance peut-être à un monstre économique et agricole et un danger sans nom pour la biodiversité. Ce que je veux dire aussi, c'est que si on veut que l'agriculture française soit plus sobre, plus respectueuse de l'environnement, il faut déconstruire le modèle économique de l'agriculture, qui est fondé sur le productivisme, qui est fondé sur l'utilisation massive d'énergie fossile et de pesticides. Et ça, c'est aux politiques de le faire, mais c'est aussi au monde agricole de le faire, par la formation des agriculteurs qui vont devoir remplacer la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite en 10 ans. C'est de apprendre de nouvelles techniques, c'est apprendre de nouveaux modèles économiques aussi, sachant que ce que prévoit la FNSEA, qui co-gère finalement l'agriculture française avec le ministère de l'Agriculture, c'est la disparition de la moitié des exploitations agricoles d'ici 10 ans. La moitié. Si on regarde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 7 dixièmes des exploitations agricoles ont disparu. Donc c'est quand même une co-gestion qui est un véritable échec. C'est un échec en termes d'aménagement du territoire, c'est un échec en termes environnemental, et c'est un échec en termes de sécurité d'approvisionnement en denrées alimentaires. La France ne produit pas les aliments qu'elle consomme. Elle est obligée d'avoir des liens avec le monde entier pour s'approvisionner, même en denrées les plus alimentaires, les plus indispensables aux Français. Donc, je veux dire par là que c'est un nouveau modèle agricole à construire, et ça, c'est pas seulement aux politiques de le faire, c'est aussi aux scientifiques, c'est aussi aux agriculteurs, et c'est aussi aux citoyens qui ont leur mot à dire, bien sûr via leurs achats, mais aussi peut-être à travers des sondages, à travers des conventions citoyennes, je ne sais pas, mais aux citoyens aussi de s'exprimer pour dire ce qu'il a envie de manger, ce qu'il n'a pas envie de manger, ce qu'il a envie de voir dans ses campagnes, etc.
Le citoyen a-t-il la possibilité de choisir ce qu'il peut manger, en fait? Les circuits de distribution aujourd'hui sont tels que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller s'approvisionner en agriculture durable, biologique, etc. On voit aussi que tous les efforts qui ont été faits par l'Europe pour développer l'agriculture biologique sont en train d'être inversé. On a de plus en plus d'exploitations bio qui reviennent au conventionnel parce qu'elles ne touchent pas les subventions, c'est pas suffisamment rentable, elles ont le couteau sous la gorge, pour pouvoir se maintenir, elles sont obligées de revenir à un modèle plus consommateur en pesticides, etc.
Choisir ce qu'on mange, choisir à qui on consomme, ça c'est tout le projet de la sécurité sociale de l'alimentation. Qui est porté par des associations d'agronomes notamment, qui pourrait être un grand projet national comme l'a été celui de la Sécu après la guerre, qui commence à s'expérimenter à l'échelle locale. Mais effectivement, si on pousse à fond l'idée, ça veut dire que on a chacun une carte comme la carte vitale, une carte alimentaire, créditée chaque mois 250 €, que l'on va consommer chez des distributeurs agréés, eux-mêmes approvisionnés par des producteurs du territoire. Et là, on a une espèce d'assemblée à l'échelle du bassin de vie qui décide qui on conventionne pour quel type de produit.
Eh ben
c'est une amorce. Elle part du terrain à partir de collectivités locales motivées.
Tu nous dis qu'on peut bordurer, je prends une expression de cycliste, qu'on peut bordurer les politiques.
Alors, n'étant guère friande de cyclisme, peux-tu me dire ce que tu entends par bordurer ?
Alors, c'est effectivement, c'est les doubler, passer devant et leur prendre le lead, quoi.
Comme plein de fois, comme sur plein de sujets. Par exemple, les ABC, les atlas de la biodiversité communale, c'est parti du terrain. Les plans climat territoriaux, c'est parti du terrain. Plein d'avancées dont certains élus nationaux se sont gargarisés sont juste la reprise d'initiatives locales un peu pionnières.
Oui, donc, mais si les collectivités ne reprennent pas ces initiatives, il ne se passe rien.
Non, mais à un moment, ça devient la loi.
Oui.
À un moment, les plans climat sont devenus obligatoires.
Bien sûr, mais c'est parce que les collectivités ont relayé et rallié ces initiatives.
Dans collectivités, ce n'est pas toujours les politiques. Par exemple, si on prend la question de la lutte contre la pollution lumineuse, je me souviens que c'est parti en fin des années 90, essentiellement de la part de l'Association des ingénieurs des villes de France et puis de techniciens qui s'apercevaient que, ça faisait des dépenses, deux, ça posait des problèmes pour les animaux, les insectes notamment. Et c'est quand même une approche, entre guillemets, d'une profession qui s'est mobilisée.
Et les chauves-souris.
Et donc, comme quoi, il y a quand même moyen de faire bouger les lignes. Mais c'est vrai que ça prend du temps quand même, hein. Eh bien, voilà, donc c'est vachement intéressant cette idée de sécurité sociale alimentaire. J'ai pas écorné le terme, c'est bien ça que tu...
Sécurité sociale alimentaire.
D'accord.
Et à Montpellier, d'ailleurs, ils font beaucoup, non ?
Absolument, ils sont en pointe, oui. Mm-hmm. Ça s'appelle Caisse commune, leur initiative.
Pour rebondir sur cette idée, il y avait un très beau projet porté par l'ancienne majorité municipale à Lyon, qui était la réalisation d'un ambitieux plan alimentaire territorial qui consistait en gros, et ça allait plus loin que les PAT habituels, qui consistait à ce que la collectivité contractualise avec des agriculteurs tout en choisissant avec eux des semences qui allaient produire des denrées, des fruits, des légumes, des légumineuses qui allaient être résilientes au climat de 2050. Donc ils avaient fait une présélection ensemble auprès de conservatoires de semences pour délivrer ça. Et l'idée, c'était que les agriculteurs produisent avec des semences qu'ils pourraient récupérer d'année en année, ce qui est aujourd'hui très difficile dans l'agriculture conventionnelle, et que ces denrées seraient achetées par la collectivité pour alimenter ses cantines centrales, les cantines scolaires, les cantines de l'administration, mais aussi qu'il y avait une partie de cette production qui serait allouée aux ménages les plus précaires du Grand Lyon. Alors malheureusement, pour ce projet, la municipalité a changé, mais je trouve que c'est une expérience qui devrait être retentée ailleurs, aussi bien au plan agronomique qu'au plan social.
Mais c'est surprenant que ce projet ait été abandonné vu la couleur politique de Lyon.
Oui, c'est surprenant. Je crois qu'il y avait quelques problèmes de personnes aussi. Malheureusement, ça arrive dans le monde politique. Mais je crois que la ville de Nantes a lancé un programme un peu équivalent et d'autres collectivités comme Périgueux, par exemple. Alors, à chaque fois, ce sont l'ambition est moindre parce qu'il n'y a pas cette dimension agronomique et adaptation au réchauffement, par exemple. Mais on pourrait tous se focaliser sur l'exemple qu'on a tous en tête, celui de Monsartou, qui a, il y a déjà fort longtemps...
Tu peux me répéter ce que j'ai en tête?
Alors, Monsartou, c'est une petite commune, je crois, de 10-15 000 habitants dans les Alpes-Maritimes, dont le maire, il y a une vingtaine d'années, a voulu passer les cantines scolaires municipales en bio. Et donc, ils ont embauché un agriculteur bio. Ils ont dégagé des surfaces foncières, ils ont acheté des surfaces foncières pour les cultiver en bio. Et depuis 20 ans, non seulement les petits de Mons mangent bio, mais en plus, ils ont reçu une éducation pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et le gaspillage alimentaire dans les cantines de la ville a baissé de 80% en 4 ans. Donc il y a une dimension environnementale, une dimension sociale, puisque au moins tous les enfants mangent à leur faim et mangent plutôt bien. Et en plus, une autre dimension environnementale en aval, qui est que la commune produit moins de déchets.
Dans un budget parfaitement maîtrisé, voilà. Sans surcoût.
Mais des exemples, alors là c'est pareil, des exemples dans les cantines, il y en a relativement beaucoup, et ça fait longtemps que ces professions-là, et ces fonctionnaires territoriaux ont lancé ces démarches. Alors c'est vrai que ça, on n'en entend pas beaucoup parler. Alors il se trouve que nous, ça nous arrive de faire des articles sur la presse territoriale, donc s'occuper de local, mais c'est vrai que des initiatives... Donc ça montre quand même que par le biais du collectif et du terrain, on peut faire changer les choses. Et c'est vrai que, je ne sais pas, si on faisait un inventaire, il y aura bientôt le Salon des maires, ça pourrait être l'occasion, mais de toutes ces initiatives sur l'alimentation qui sont plutôt intéressantes, je pense que ça se compterait en centaines, largement. Et ça n'empêche pas certains de vouloir encore limiter le bio, savonner la planche. Non, mais parce que c'est clairement ça. Quand on voit les bâtons dans les roues sur les retards de paiement des subventions, c'est ahurissant, quoi. C'est comme si, un patron ne payait pas ses salariés pendant... je crois que ça peut être 2 ans, j'ai cru comprendre. C'est, on est dans le... c'est ubuesque. Alors c'est normal qu'il grogne. Mais bon, est-ce qu'il y a d'autres domaines où quelque part les citoyens, au sens très large du terme, ont repris la main, peuvent prendre la main?
Je crois qu'en matière d'énergie renouvelable, il y a pléthore d'exemples. Je veux dire, on voit beaucoup de collectivités qui reprennent la main sur la production et la distribution d'électricité, en particulier via ce qu'on appelle l'autoconsommation. Donc l'idée, c'est que dans le meilleur des cas, que la collectivité monte un projet de centrale. En général, c'est plutôt du photovoltaïque, mais parfois ça peut même être des parcs éoliens ou un morceau de parc éolien, pour produire localement de l'électricité qui sera distribuée, vendue très localement dans un périmètre de 2 à 10 km. Et donc c'est une espèce de circuit court électrique, mais qui peut être complètement contrôlé par la collectivité. Donc c'est une façon pour elle de maîtriser ses coûts, en tout cas d'avoir une idée de ce que lui coûtera la consommation d'électricité sur une dizaine, voire une vingtaine d'années. Et elle peut mettre dans cette boucle des ménages, elle peut mettre dans cette boucle des entreprises locales, elle peut même distribuer gratuitement de l'électricité aux ménages les plus précaires. Donc c'est là aussi une façon de conjuguer énergie renouvelable et sociale.
Mais bon, il y a les transports en commun aussi qui marquent une capacité d'action citoyenne non négligeable. Alors c'est vrai que ça prend du temps. C'est peut-être ça aussi pour ça que le grand public, le citoyen, ne le perçoit pas bien. C'est que faire ce type de changement, ça se compte largement en 10 ans, quoi. Un pas de temps. Peut-être, Laurence, tu as des précisions à nous donner. Moi, j'ai un peu perdu la main là-dessus, sur les collectivités territoriales.
Sur le transport, je pense qu'il y a une énorme dépendance des collectivités aux fonds nationaux. elles sont extrêmement freinées là-dessus pour être vraiment motrices. Elles agissent, mais là encore, avec une dépendance aux fonds nationaux sur, sur les mobilités actives, avec les pistes cyclables. Mais je vais bifurquer sur, sur ce qui est initiative locale. Il en est une qui me semble particulièrement percutante et qui vient, à mon avis, en substitution à la carence de l'État. C'est celle de la métropole de Lyon encore, qui engage une action en justice sous forme de plainte contre X pour l'instant sur la, la pollution de la ressource en eau par les PFAS. On ne va pas parier sur l'issue de la procédure, mais elle pourrait néanmoins déboucher sur ce qui serait l'ébauche d'un principe pollueur-payeur réellement appliqué dans le domaine des PFAS en l'occurrence. Parce que le principe pollueur-payeur, il est dans la loi européenne, mais alors...
Et il est dans notre constitution aussi, non?
Avec une application, on ne peut plus light. Ça, c'est une démarche qui peut faire jurisprudence et qui aurait un impact à l'échelle de toute l'Europe. Si, enfin, on fait payer la pollution par leurs émetteurs. Moi, je trouve que c'est assez gonflé.
Et alors, qui sont les industriels, les émetteurs?
Oui, oui, bah c'est Pierre Binet, c'est Arkema et Daikin, je ne sais pas comment on prononce correctement.
D'accord. Daikin, je crois.
Daikin. Voilà. Et ça, c'est une démarche qui est d'autant plus audacieuse qu'on voit bien au niveau national comment les responsables sont, mais alors, pétrifiés, quoi. La proposition de loi qui a été adoptée de Thierry Nicolas, elle est quand même assez modeste sur les exigences attendues des industriels sur le champ des produits couverts. On a même vu dans le cadre de l'examen de ce texte.
Alors, des... tu peux nous rappeler ce texte parce que.
C'est le texte sur la prévention de la pollution par les PFAS.
D'accord.
Et dans le cadre de l'examen de ce texte, on a vu des ouvriers de SEB monter à Paris pour exprimer leur hostilité à ce texte qui va quand même protéger la santé des Français et des travailleurs.
D'accord, il n'y a pas que les agriculteurs parce qu'il qui
y
peuvent
en a...
se fâcher.
Non, chaque fois qu'il est question de son emploi.
Il y en a un pour les auditeurs
oui, absolument,
qui
ne oui,
captent pas. C'est parce qu'il y en a, il y a des PFAS dans le Tefal, dans
fais
le
bien
Teflon. Et donc, sauvons nos emplois. Il est absolument scandaleux qu'on nous impose de retirer les PFAS de nos chaînes de fabrication. D'ailleurs, on n'utilise plus de PFAO parce que tous les PFAS ne sont pas encore interdits. Il y en a 30 000, un truc comme ça. Hein. C'est monstrueux, la famille des PFAS. Hein. Au niveau de l'Europe, l'Agence européenne chimique a énormément de mal à statuer sur l'ensemble des PFAS. Il y a 5 pays européens qui ont exigé il y a 2 ans de... Oui, c'est début 2023, je crois, de procéder par famille pour faire interdire à l'échelle européenne. Bon, le truc est en stand-by, ils sont revenus en arrière. Enfin, bref, ça ne... On ne sait pas quand ça va aboutir. Bref, enfin, continue, excuse-moi.
Non,
c'est,
je t'en prie, tu complètes, c'est alors, bienvenu. Je voulais juste dire que là, on a bien une collectivité locale qui supplée en quelque sorte la carence, la frilosité des autorités nationales. Alors même que, d'un point de vue économique, une économiste de l'eau, Maria Salvetti, affirme que sur le strict plan économique, mais il faut arrêter les PFAS. Tout de suite, on y a intérêt. Ça va avoir un coût tellement colossal en termes de dépollution, en termes d'impact sanitaire, que mieux vaut éventuellement fermer des entreprises, payer des gens au chômage temporairement, payer des formations, que d'affronter les coûts qui nous attendent.
Parce que, alors, tu nous décriras les coups qui nous attendent après la deuxième pause musicale. Après Rachida et Fabien Roussel, c'était...
Fabien Roussel.
Ah là là, ça y est, fallait que je la fasse. Bon, allez. Donc là, maintenant, c'est Roy Passy et Tromba.
C'è chi la vive soffrendo, chi se l'accende fumando. C'è chi la canta nel fango, tra le case all'asfalto, fra le rose mocambos. C'è chi le nasce di dentro, chi la ritira nel sacco. Chi se la suona di salsa, di reggae, di Balkan, di jazz, di mambo. E la balla il politico fuori dal club, e la balla così parapaperepe. Ne aspetta chi le dà vento, chi le dà fiato di dentro. Quando è notte la sogno, sempre al centro del mondo, sai di cosa ho bisogno. Muovela, 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 tromba! Muovela, 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 tromba! Muovela, 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 tromba! C'è chi le squilla di festa, c'è quella in mare nefasta. C'è chi la suona ma in testa, chi ora solo non basta, si verrà spera d'astra. E il grande sole del palco, e melodia do ricalco. E in fondo agli occhi di Chet, la risata di Luis, nella sordina di Biles. E la canta, la piazza e la balla come se la canta così parapaperepe. Poi arriva lei nell'orchestra, e può iniziare la festa. Ogni notte la sogno, lei la fine del mondo, sai di cosa ho bisogno. Muovela, 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 tromba! Sono noi, solo noi, parapaperepe. Regina senza corona, la mia rovina più buona. Quando suonerà l'angelo sotto l'eclisse, che grande concerto per l'apocalisse. Chissà che festa quel giorno, sarà la fine del mondo.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie. On parle de, grosso modo, qu'est-ce que les politiques doivent faire et qu'est-ce que, on va dire, la société civile peut faire également. Alors bon, j'ai vu que se dessinait une alliance entre les citoyens et les élus locaux contre les carences de l'État. C'est un petit peu la position que nous a rappelée Laurence. Bon, on était sur la question des bifaces. Donc, vous savez, ces polluants chimiques assez mal connus pendant longtemps qui risquent de provoquer, avec un temps de latence important, moult cancers, moult, c'est des perturbateurs endocriniens, ça met 30-40 ans à être efficace. Donc pendant longtemps on s'est dit, on voit rien venir, donc il n'y a rien. Et puis au final, ce qu'on peut en penser, tout ce que aujourd'hui les épidémiologistes et les médecins disent, c'est on risque de choper une bombe à retardement dans quelques années. Quoi.
Mais parce qu'il y en a de plus en plus et qu'on n'arrive pas à les éliminer. C'est l'effet d'accumulation qui en fait plus, que le danger vient. Ça s'accumule dans les artères, dans les neurones. Voilà,
ça va partout.
Et il y en a de plus en plus, en fait. C'est le problème. C'est un problème de quantité.
Donc ce soir, en rentrant, je vais pouvoir dire à mes enfants, les enfants, vous allez choper non seulement le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, mais en plus la pollution sanitaire de votre environnement.
Et pas que PFAS, hein, parce qu'en fait, il y a les microplastiques et c'est ça le problème. Les PFAS, c'est une petite partie du problème, parce que c'est un des composants de ces
génial,
plastiques.
Génial, ça va être l'enfer sur Terre, c'est ça?
Non, je n'ai pas dit ça, mais sur les plastiques, on n'arrive pas à agir, franchement. Et quel citoyen aujourd'hui est content d'aller vider 10 fois par semaine sa poubelle jaune avec ses emballages, quoi? C'est impossible de se passer du plastique aujourd'hui, à moins de faire ses courses uniquement au marché. Mais on a du plastique à plus savoir qu'en faire, des emballages à plus savoir qu'en faire. On n'arrive pas à les retraiter, on n'arrive pas à les recycler. Et puis après, on n'arrive pas à légiférer dessus non plus pour réduire... Au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, oui. On voit le succès du projet de traité. Et justement, là-dessus, on a un projet de traité qui foire, clairement. On ne va pas s'en sortir. La production plastique ne va pas être réduite. Et on a les scientifiques du Lancet Countdown, donc un groupe de scientifiques, genre un peu climatique, qui a fait des études sur les prévisions des impacts sanitaires de la pollution plastique sur le développement des enfants. C'est atterrant. C'est sorti le 21 septembre dans le Lancet.
Donc il y a 3 jours.
Il y a 3 jours et qui demande, là pour le coup c'est les scientifiques qui demandent aux politiques d'interdire expressément le plastique compte tenu des risques pour le développement des enfants. Ils mettent dedans l'autisme, troubles du neurodéveloppement, les fausses couches chez les femmes enceintes, après obésité, cancer, maladies cardiovasculaires, asthme, allergies, enfin tout est mis sur le...
Quand je t'écoute, tu dis, bon, les politiques au niveau mondial, ils s'en sortent pas. Au niveau national, européen, c'est le bazar, ils s'en sortent pas. Au niveau national, c'est des couards, ils s'en sortent pas.
Je crois qu'on est en train d'exposer le rapport de force qui se joue entre, d'une part, les politiques
alors,
et d'autre
question,
part,
là où je vais
les puissances
en venir,
économiques qui sont
au niveau local, on peut avoir des... Parce que ça va bientôt être les élections municipales. Est-ce que les élus locaux devraient... ont pas quelque part un créneau à prendre et se saisir de ça et en faire l'actualité?
Ça pourrait être une idée.
Alors qu'est-ce qu'on voit dans les programmes les programmes locaux pour les municipales? Vous me direz, ils sont peut-être pas...
C'est un peu prématuré.
C'est un peu prématuré, mais bon, c'est dans 6 mois quand même. Hein.
Je crois que les politiques locaux, ils doivent traiter des problèmes locaux. Leur boulot, c'est pas de légiférer sur les microplastiques au niveau mondial.
Bah non, mais
en revanche, ils ont à peu près tous une problématique qui va se décliner sous différentes formes, qui est celle de l'adaptation au changement climatique. Et pour certaines communes, le danger, ce sera les inondations flash. Pour d'autres, ce seront les inondations qui vont venir par le sol parce qu'on est sur un polder, comme le triangle Calais-Saint-Omer-Dunkerque. Pour d'autres, ce seront les retraits gonflements des argiles. Pour d'autres, ce seront encore la submersion marine, etc. Donc, ça,
tout le monde a des déchets plastiques.
Un maire ne peut rien faire contre les déchets plastiques. Il peut organiser la collecte sélective, il peut faire en sorte que ce soit le mieux traité possible, le mieux valorisé possible, mais il ne peut pas empêcher, par exemple, les commerçants d'avoir des produits emballés sous du plastique. Il n'en a pas le pouvoir aujourd'hui.
Il peut appliquer la loi Egalim dans les cantines publiques.
Déjà.
Et réduire les contenants en plastique.
Bien sûr.
Ce qui ne sont guère nombreux à faire.
Mais sur le commerce privé, il n'y a aucune prise.
Après, il y a des municipalités qui grougent un peu. Ils suppriment, par exemple, toutes les poubelles plastiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certains départements, par exemple en Vendée ou en Bretagne, on ne trouve pas de poubelle jaune pour jeter. Si vous avez du plastique acheté, il n'y a pas de poubelle jaune, en fait, juste. Ou alors, il faut aller au centre commercial du coin, où il y a des poubelles avec des cartes qu'on met, un crédit dessus, etc.
C'est lié à la tarification incitative.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, avec ça, on pourrait peut-être réduire un peu, parce que ça incite quand même à moins...
Je crois qu'on peut les amener au Puy du Fou aussi.
Oui. Recyclable, vraiment ? Ou valorisation énergétique ?
Bon, oui, en tout cas,
dans les armures.
Ceci étant, c'est vrai qu'on n'est pas maire, on ne va pas se présenter aux élections, mais malgré tout, il va falloir qu'on affûte un peu nos observations, parce qu'il y a moyen de... Il y a quelque chose à prendre, quoi. Il y a normalement les élus, les prochains candidats au municipal devraient avoir des choses à dire. Il faut qu'on puisse les aiguillonner sur ces sujets-là.
Peut-être aussi en hiérarchisant les urgences.
Eh bien, on t'écoute, Jérémy, professeur.
Le fait qu'on a commencé par le SSA.
Parle dans le micro.
On a commencé par le SSA pour parler ensuite de la sécurité de la sécurité alimentaire. Je trouve ça très intéressant, parce que là, effectivement, il y a une certaine urgence. De même que quand on parle des différents projets, micro-projets sur la question énergétique, on peut aller plus loin dans la volonté de chacun de s'approprier une certaine souveraineté énergétique. Et c'est peut-être là où on peut essayer, je ne suis pas un politique, mais on peut essayer quand même de hiérarchiser certaines urgences et peut-être de mieux impliquer les gens en leur disant voilà, ça c'est vraiment une priorité.
Bon, en tout cas, si nous on pouvait agir sur l'agenda des élections municipales, sur les thématiques à mettre en avant,
c'est l'ambition de Radio Aligre, voilà. De toute façon.
Et puis des arènes de l'écologie. Et bon, voilà, donc, peut-être que ça va être la conclusion de ce premier débat, le droit de réponse écologique organisé avec l'AJE, l'Association des journalistes de l'environnement, qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. Donc la prochaine émission, ce sera dans 8 semaines. On n'a pas encore décidé du sujet, on verra ça tout à l'heure au bar.
Il y aura quand même une émission la semaine prochaine.
Ah, bien sûr. Alors l'émission de la semaine prochaine, ce sera le Salon du Livre. On invitera les responsables du Felipe, qui organise le Salon du Livre écologique à l'Académie du Climat, le 4 et 5 octobre.
Mais on les invite avant.
Voilà, on les invite avant pour qu'ils puissent bien raconter, faire venir les gens acheter des livres écologiques, donc sur l'écologie. Et puis voilà, donc il me reste à remercier notre brillant ingénieur du son de la soirée, donc Renaud Poussin, et puis...
Nous tous.
Et puis nous tous, oui.
Nous tous,
voilà, Ben, Clara, Laurence... Valérie, et puis je vais féliciter moi-même aussi,
et François.
Voilà, c'est ça, parfait. Bon bah écoutez, bonne semaine à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine, on va parler bouquins écologiques.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.